on dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, celui dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irritée et je l'ai frappée. Je me suis cachée dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu.
Merci, Julie. Ce matin, notre pasteur Yannick est absent. Il est à Rivière-du-Loup ce matin pour la mise à part de Hugo, son frère Hugo Étier, qui est mis à part ce matin. Et pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi ça veut dire une mise à part, c'est spécialement lorsque on voit ça, entre autres dans le livre des Actes, dans Actes 13, Paul et Barnabas ont été mis à part pour le ministère auquel Dieu les avait appelés. Et lorsque Dieu appelle un homme au ministère, souvent l'Église va prendre le temps de reconnaître cet appel-là dans la vie de l'homme de Dieu, et puis vont faire prendre un temps pour célébrer une mise à part, pour prendre ce temps pour reconnaître que le serviteur a été mis à part pour Dieu, pour le service consacré au ministère. Et puis ce matin, Yannick est là pour à la mise à part de son frère Hugo, et on va prier ensemble, prier pour Hugo, prier pour les gens qui souffrent dans l'Assemblée, que le Seigneur puisse nous bénir ensemble dans sa parole. On va se courber. Seigneur notre Dieu, on est béni d'être ensemble ce matin. On est béni d'être dans ta présence, parce que tu es le Dieu vivant et vrai, celui qui règne sur toute chose, celui qui domine sur l'univers, parce que c'est toi qui l'as créé. Seigneur, on est béni de pouvoir vivre une relation intime avec toi et on veut s'approcher de ta parole ce matin. Et te prier que dans ta grâce, tu puisses nous bénir ensemble par ce message et à travers cette série, Seigneur, qu'on puisse se rappeler combien c'est précieux de pouvoir être réconcilié avec toi. Seigneur, je veux te prier pour notre frère Hugo qui célèbre ce matin cette mise à part pour ton œuvre, pour ton ministère. Et Seigneur, on a vu combien à travers les années tu l'as appelé à te servir, à implanter cette église à Rivière-du-Loup et avoir un ministère d'évangéliste dans cette région. Et on veut te prier pour lui, pour sa famille, pour son épouse Lynn, et que tu puisses les entourer de ta grâce dans cette période où il célèbre ce que tu as fait dans sa vie. Et que tu puisses aussi bénir leur ministère là-bas à Rivière-du-Loup, bénir l'église là-bas aussi, que tu puisses l'aider à grandir dans ta grâce et dans ta connaissance. Seigneur, on veut te prier aussi pour ceux qui, parmi nous, qui souffrent. On pense entre autres à la famille Lapointe, entre autres à l'épouse de Marcel qui est dans la peine aujourd'hui en raison de la perte de son mari. Et je te prie que tu puisses vraiment être avec elle, que tu puisses consoler son cœur et lui accorder ta paix ce matin. Aide-la dans les prochains jours, dans toute la gestion de ce que ça occasionne, et on te prie d'être avec elle. Aide-nous, Seigneur, comme frères et sœurs, d'être près d'elle, qu'elle puisse sentir ton amour à travers nous, et que ça puisse être une consolation pour elle. Apporte ta consolation, Seigneur, et tu peux l'apporter à travers nous, dans ta grâce. Bénis-nous encore une fois ensemble ce matin. Que ton nom soit glorifié dans tout ce qu'on va faire. Soit avec ma bouche, afin que ma bouche communique tes grâces et soit une édification pour ton peuple. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. À l'approche de Noël puis du temps des fêtes, on entend des petits changements sur nos radios habituelles. Les chants qu'on entend sont différents. On entend des chants un peu plus traditionnels, des chants de Noël qui nous parlent du Père Noël, des cadeaux, puis des traîneaux, des reines, puis de la neige. Puis des fois, encore, on entend des chants qui nous parlent de la naissance d'un sauveur. Et puis, certains apprécient ce temps des fêtes et écoutent la musique à la radio et se plaisent dans tout ça. Mais il y en a d'autres, j'en connais des fois, « Ah non, pas la musique de Noël encore cette année. Il me semble tout le temps même qu'on entend. » Puis il y en a qui aiment moins ça. Mais le temps des fêtes a une musique spéciale associée à ce temps-là. Une musique qui nous parle souvent de bonheur, de joie, mais aussi de paix. On entend ça dans les paroles des chants. Les chants du temps des fêtes nous parlent souvent de paix. Et ça représente quand même un désir qu'on a dans nos vies, dans la vie de chaque être humain, de vouloir vivre en paix. En 1971, John Lennon et Yoko Ono ont écrit une chanson de Noël qui est devenue un classique aujourd'hui. Mais c'était pendant le temps de la guerre du Vietnam. Et cette chanson-là exprimait une certaine protestation contre la guerre au Vietnam et recherchait à ce que la paix puisse régner. Et spécialement, cette chanson de Noël-là est devenue une chanson où on peut proclamer la paix, une paix qui se définit comme la situation d'un pays qui n'est pas en guerre. On peut définir la paix de plusieurs façons. Cette chanson-là chantait la paix et chante encore. On l'entend souvent à la radio et je l'ai même en tête présentement pendant que je vous parle. Je la chanterai pas, mais peut-être, hein? Non. Mais non. Essayez pas. On va chanter d'autres chansons qui parlent de paix tout à l'heure. Je me suis mis des pieds dans les plats, là. So this is Christmas. Hein? Vous entendez ça, vous connaissez ça? Je ne dis pas plus là. OK. C'est bon. Cette chanson-là nous parle de paix. D'une paix d'un pays qui n'est pas en guerre. Dans nos cœurs, on a aussi cette recherche de paix dans une sorte d'une quiétude, d'un calme, d'une tranquillité, l'absence de bruit, de désordre, d'agitation. Pour les parents de 4 enfants, on veut ça souvent. L'absence de désordre, l'absence de bruit, l'absence d'agitation. Hier après-midi, on se fêtait la fête de nos deux plus vieux. Et on avait 10 enfants à la maison. Et mon ami! Ça, après ça, c'est comme, on a trouvé la paix. Le travail aussi, souvent, nous occasionne des inquiétudes. On est préoccupé par ce qui se passe dans nos vies, des préoccupations qui sont folles parfois, et on recherche à avoir la tranquillité du cœur, la paix. La paix, c'est aussi, comme en lien avec ça, un état d'esprit empreint de sérénité, qui n'a aucune inquiétude, aucun remords. Avoir la paix du cœur, on parle de ça souvent. On peut parler aussi de la paix comme un état d'harmonie, l'absence de conflit entre des personnes, dans un groupe ou dans une communauté. On voit, entre autres, souvent à l'intérieur d'une famille, dans les relations, l'absence de paix. Et puis, on recherche parfois la paix. Ça se peut que dans votre famille, vous avez des relations tendues ou ce que vous ne vivez pas présentement la paix dans vos relations. Et la paix, c'est un état d'harmonie, l'absence de conflit dans un groupe ou dans une communauté. Puis plusieurs vont se battre pour la paix, puis parfois vont faire la guerre contre la guerre pour obtenir la paix. Puis pour obtenir la paix, il y a souvent un prix important à payer. Et ce matin, cette semaine, entre autres, on a entendu beaucoup parler du décès de Nelson Mandela, qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 1993. 27 ans en prison pour obtenir l'abolition de l'apartheid et a travaillé très fort et dans un esprit de paix, même à la sortie de prison, pour venir établir la paix dans ce pays-là et avoir un état d'harmonie, l'absence de conflit entre les personnes. Dans le passage de ce matin, Dieu annonce la paix au peuple d'Israël. On a lu le passage, un passage dans Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète qui a vécu environ 700 ans avant Jésus-Christ. Et à travers ce passage-là, Dieu annonce la paix à son peuple. Le prophète était un messager de Dieu pour le peuple. Et le prophète arrivait avec un message, il avait reçu un message de Dieu, il venait le livrer au peuple. Et à travers ce passage-là, ce qu'on voit, c'est Dieu a un message pour son peuple. Le peuple d'Israël qui s'était choisi quelques centaines d'années auparavant, et puis un peuple qui vivait en relation avec Dieu. Et Dieu annonce la paix. Mais Dieu annonce la paix parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème parce que le peuple avait abandonné Dieu à travers toutes ces années. Il avait abandonné Dieu pour servir des idoles, pour livrer leur cœur à des choses entièrement contraires à ce que Dieu aime. Et puis Dieu va le dire dans le passage, il s'est séparé d'eux. Mais en même temps, il vient avec un message de paix, parce que Dieu veut rétablir la paix entre lui et son peuple. Et Dieu, comme il mentionne, s'était éloigné. Il avait livré son peuple à un certain châtiment en faisant venir une autre nation pour venir le détruire et l'amener en déportation. Et on voit ça, entre autres, dans le récit de l'Ancien Testament, que le peuple d'Israël a été amené en déportation à cause des péchés et à cause de la séparation qu'il y avait entre lui et Dieu et de son cœur rebelle. Maintenant, en même temps que Dieu annonce le châtiment, que Dieu, à travers Ésaïe, qui annonce le châtiment, il va aussi annoncer qu'il y a un désir de restaurer son peuple. Il annonce que ça ne va pas durer toujours, le châtiment, mais qu'un jour, la paix va venir. Puis à travers l'annonce de la paix que Dieu apporte à son peuple, Dieu annonce aussi à tous les hommes, à tous les êtres humains qui ont besoin d'avoir la paix avec lui. Mais pour cela, il va falloir qu'un chemin soit frayé, qu'un chemin soit établi, bâti, pour que la paix puisse venir. Il va avoir un prix à payer. Pour répondre à la question, en fait, pourquoi la paix avec Dieu? On parle de paix avec Dieu, mais pourquoi la paix est-elle nécessaire? Qu'ai-je fait pour ne pas être en paix avec Dieu? Le passage nous démontre ce matin, entre autres dans le verset 17, que Dieu s'était éloigné de son peuple. Mais en même temps, il s'est éloigné de son peuple à cause de son péché. Dieu aussi parle dans les Écritures d'une séparation entre Dieu et les hommes. L'humanité est séparée de Dieu en raison de sa rébellion et de son péché. On voit dans le passage qu'est-ce qui met la distinction, qu'est-ce qui met cette séparation-là entre Dieu et les hommes. Parce qu'il y a une séparation. Il y avait une séparation entre Dieu et son peuple, Israël, mais Israël était un peuple choisi par Dieu. Le reste des nations était quand même séparé de Dieu. Et nous, comme êtres humains, on est séparés de Dieu en raison de notre rébellion et de notre péché. Et c'est important de comprendre cette séparation-là. Parce que Dieu se révèle lui-même dans ce passage comme un Dieu qui est élevé, éternel et saint. Au verset 15, on voit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Voici qui est Dieu. Dieu se révèle. « Je suis le Très-Haut, celui qui est élevé au-dessus de toute chose. J'ai une demeure qui est éternelle. » J'ai toujours existé. Dieu n'a pas été créé. Des fois, lorsqu'on parle de l'origine de l'humanité avec les gens, on parle que toute la création de l'univers, il y a eu une cause à ça. C'est Dieu qui est derrière ça. Et souvent, la question vient, ouais, mais qui a créé Dieu? C'est pas une question qu'on peut se poser. Parce que Dieu lui-même est en dehors du temps. Et lui-même est éternel, c'est dans sa nature d'exister. Il est le « je suis », celui qui a toujours existé, qui n'a jamais été créé. Dieu se manifeste à son peuple comme étant le Très-Haut, celui qui est au-dessus de toute chose. Il est le Tout-Puissant, celui qui règne sur l'univers. En même temps qu'il parle du fait qu'il est élevé, Dieu parle aussi de sa sainteté. Et lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu, on parle souvent de son unicité. Le fait que Dieu est unique. Dieu est élevé en majesté, en grandeur, en gloire, et il n'y a aucun autre Dieu semblable à lui. La Bible nous révèle que Dieu est le seul vrai Dieu qui a toujours existé, qui existe éternellement et qui est saint. Cette unicité est exprimée. En même temps, sa sainteté nous parle de sa perfection, du fait qu'il est parfait en toutes choses. Il est cette perfection-là définit Dieu comme le standard de tout ce qui est bien. On a cette conception-là en nous-mêmes, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Des fois, c'est faussé, mais on a ce sentiment de dire, ça c'est bien, ça c'est mal. Si je m'en vais chez vous pour défoncer ta maison, puis voler ce qui est dans ta maison, ton écran, plasma, puis tout le kit, tu ne m'aimeras pas, tu vas dire, c'est mal faire ça. Et on a cette distinction-là entre nous, entre ce qui est bien, ce qui est mal. Mais Dieu est le standard de ce qui est bien. Il est celui qui est parfait. En même temps, la Bible nous révèle que Dieu est élevé, Dieu est saint, et que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui mérite la gloire. C'est lui qui mérite la gloire parce qu'il est Dieu. Certains peuvent remettre en question qu'on peut vivre dans un monde créé par Dieu. Mais la parole nous parle aussi de ces perfections qu'on voit dans la nature. Et j'aime ça souvent me promener dans la nature, souvent à l'automne ou même pendant les moments où le parc, souvent je vais au parc régional sur l'heure du dîner, c'est mon petit secret que je vous partage, je vais marcher pour prier dans la nature, puis je contemple la nature. Et lorsque je regarde la nature, il y a des choses, lorsque je prends le temps de les considérer, ce qui vient en moi, c'est surtout l'automne, lorsqu'on voit les couleurs, il y a un artiste derrière ça. On est habitué de voir un tableau, puis si on voit un tableau, on va demander, waouh, c'est une belle toile. Qui a peint ça? Parce qu'il y a un artiste derrière cette toile-là. On a cette conception-là. En nous-mêmes, il y a une cause derrière cette beauté-là. Et Dieu est la beauté derrière la nature, derrière la beauté de la nature. C'est lui qui est le créateur. C'est lui que lorsqu'on considère ces perfections-là qu'on voit autour de nous, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un artiste derrière ça. C'est intelligent. On parle en anglais des fois d'un design, de quelque chose d'organisé. On regarde les animaux agir, se reproduire, se nourrir. Tout. On voit il y a une organisation dans notre monde, dans la nature. Et lorsqu'on prend simplement le temps de considérer l'être humain dans ses perfections, personne n'est capable d'inventer quelque chose de pareil. On essaie par nos technologies d'inventer des robots qui vont réussir à reproduire ce qu'un être humain peut faire. Mais ça prend des années pour nous à faire. Mais Dieu l'a conçu. Et c'est Dieu qui est derrière ce design-là, cette organisation-là. C'est lui qui a créé toute chose. Et Dieu, étant notre créateur, étant celui qui est élevé, on en vient à réaliser que oui, c'est lui notre créateur, puis c'est à lui qu'on doit révérence. Parce que lui nous a créés pour un but. Et le but pour lequel il nous a créés, c'est qu'on puisse être en relation avec lui, pour qu'on puisse l'honorer comme Dieu et vivre une relation intime et parfaite avec ce Dieu-là. Mais il y a un problème. Parce que cette relation-là, intime et parfaite, n'est pas là naturellement avec l'homme. Il y a une séparation entre Dieu et les hommes. Et l'humanité est rebelle envers Dieu à cause de son péché. On voit ça entre autres au verset 17. Le prophète va dire, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité, je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. La relation entre Israël, entre Dieu et son peuple dans ce passage-là, représente la relation entre Dieu et tous les hommes. Par le péché, l'homme a perdu cette relation intime qu'il avait au départ avec Dieu. Il s'est arrivé à cause d'une raison, à cause que l'homme s'est rebellé contre Dieu. Il a décidé de se faire Dieu lui-même en quelque sorte. C'est comme si Dieu est là, il te donne les instructions pour être heureux, mais l'homme a décidé dans un sens de « moi, je veux être heureux à ma manière ». Souvent, je dis des choses à mes enfants, je devrais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Non, moi, je veux le faire à ma manière. Mais il me semble que je suis assez vieux pour savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Il me semble que j'ai l'expérience de la vie pour savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Puis tu devrais suivre mes conseils. Et là, il fait à sa tête, puis oups, ça ne marche pas. Mais Dieu nous a créés, puis lui seul sait qu'est-ce qui est bon pour nous réellement. Et dans sa nature, Dieu a décidé de nous créer pour qu'on puisse vivre une relation parfaite avec lui. Il nous a créés à son image. Mais nous, on a décidé, l'homme a décidé de se rebeller contre Dieu. Maintenant, à cause du péché, cette rébellion-là contre Dieu s'est étendue sur tous les hommes. Et on voit dans le psaume 14 que tous les hommes sont des pécheurs devant Dieu. Quand on considère l'univers, le monde, personne est en paix avec Dieu. Tous sont rebelles à Dieu. S'il y a quelqu'un, il y a personne qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis dans leur voie. Et l'humanité est séparée de Dieu en raison de sa rébellion, en raison de son péché. Le psaume 14 qui dit « Il n'existe pas même un juste, pas même un seul, parce que nous suivons les penchants de notre cœur rebelle. » Pareil comme le peuple d'Israël avait fait. Le peuple d'Israël n'est pas différent de nous. Il manifeste simplement le cœur humain. En fait, la rébellion, c'est une maladie. C'est comme une maladie qui affecte le cœur et le corps en entier. C'est un cœur rebelle à Dieu qui ne cherche pas à honorer Dieu. Un cœur qui cherche à se satisfaire lui-même ailleurs qu'en Dieu. C'est une maladie qui nous affecte. Et on peut essayer de mettre toutes sortes de façons pour régler cette maladie-là qui est dans notre cœur, pour être restauré puis plus être rebelle à Dieu. Mais c'est impossible pour nous. Il y a une séparation entre Dieu et les hommes. Puis cette séparation-là est infranchissable pour nous. Quand je pensais à cette image-là, il m'est venu à l'idée les émissions de mon enfance. Quand j'étais jeune, plus jeune, puis des fois encore aujourd'hui, j'aimais écouter les Looney Tunes avec Bugs Bunny, Roadrunner. Et puis, l'image de la séparation entre Dieu et les hommes m'a frappé un peu quand j'ai réfléchi à l'histoire de Roadrunner puis Willy Coyote. Willy Coyote, il utilise tous les moyens qu'il faut pour réussir à attraper Roadrunner puis en faire son repas. Là, on le voit à l'écran, il essaie une fusée. Roadrunner est trop rapide, c'est impossible. Avez-vous déjà vu une émission où Roadrunner avait réussi, Willy Coyote avait réussi à attraper Roadrunner? Il y en a que oui, il y en a que oui. Une fois. Et puis, ça tourne pas bien. Hein? Ça tourne pas bien du tout. Parce que là, en tout cas, c'est comique, là. J'avais même trouvé la vidéo, mais malheureusement, on peut pas le présenter. Mais il réussit, mais il est pas dans un bon état du tout lorsqu'il l'attrape. Mais Willy Coyote essaie d'attraper Roadrunner. Il est pas capable. Puis l'image qui nous vient souvent, c'est l'image que Roadrunner réussit à franchir des distances incroyables, puis même à passer par-dessus des falaises. Mais Willy Coyote, il court, puis là, il commence à suspendre les airs, puis wouh, il tombe. Aider Willy Coyote à attraper Roadrunner, impossible. Cette image-là m'a frappé pour montrer à quel point pour nous c'est impossible d'atteindre Dieu et de contrer notre cœur rebelle en relation avec Dieu. On aurait beau faire tous les efforts qu'on peut, on n'est pas capable d'atteindre Dieu et de restaurer cette relation-là parce que notre cœur est rebelle. Le gouffre qui nous sépare de Dieu ne peut pas être franchi par nos propres efforts. Il est trop grand. On peut rire de Willy Coyote, mais il n'y a rien de drôle dans le fait qu'on est séparé de Dieu. La Bible nous parle d'une rébellion de l'homme qui est inimitié contre Dieu, contraire à l'amitié, entièrement contraire à l'amitié. On est en guerre avec Dieu par notre rébellion. Et cette séparation entre Dieu et les hommes en raison de la sainteté de Dieu, sa perfection et notre imperfection totale nécessite que la paix soit restaurée. Mais ce ne sera pas par nos propres forces que cette paix-là va être restaurée. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui a besoin d'arriver pour que la paix soit restaurée? On a mentionné tantôt que souvent il y a un prix à payer pour que la paix soit rétablie dans la relation entre deux personnes ou entre des groupes de personnes. Il y a un prix qui a besoin d'être payé pour que la paix soit restaurée et pour que la paix règne. La Bible nous dit que la justice doit régner. Du moment de la chute et dans tout l'Ancien Testament, Dieu annonce que pour que la paix soit rétablie entre Dieu et les hommes, il faut que Dieu accorde la paix par la justice. Il faut que la justice soit faite. Parce que, en réalité, Dieu étant juste et moi étant injuste, Dieu se doit de punir le pécheur, se doit de punir le péché. Et on a besoin que justice soit faite. Comment est-ce que la paix peut régner s'il n'y a pas de justice? Même dans notre société, si les hommes démontrent leur rébellion envers l'autorité, souvent on voit ça à l'intérieur, des fois il va y avoir des guerres civiles dans des pays où des groupes rebelles vont se rebeller contre l'autorité. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il n'y a pas de paix qui règne lorsque la justice ne règne pas? Et à cause de notre injustice, la paix ne règne pas entre nous et Dieu. Et la justice doit être établie. Dieu annonce une œuvre de justice, qu'une œuvre de justice doit être accomplie pour que la paix soit rétablie. Et dans un passage un petit peu avant, dans Ésaïe 32, il va être affiché à l'écran, Ésaïe 32, les versets 17 et 18, Dieu dit que l'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, des habitations sûres, des asiles tranquilles. Pour que la paix puisse venir, il y a besoin d'avoir une œuvre de justice. La paix, c'est le fruit de la justice. Pour que la paix soit rétablie entre Dieu et les hommes, la justice doit être accomplie, le péché doit être puni. Mais comment? Parce que si je recevais la condamnation que mérite mon péché, je serais entièrement séparé de Dieu pour toujours. Je mourrais, je ne pourrais pas vivre cette relation avec Dieu. Comment? Comment cette paix-là peut être établie? Comment le prix peut être payé? Heureusement, Dieu donne une solution. Et même dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a donné cette solution-là au peuple d'Israël pour pouvoir vivre en relation avec Dieu. Entre autres, Dieu avait donné à son peuple une manière de couvrir les péchés pour qu'ils puissent entrer dans la présence de Dieu et vivre une relation harmonieuse avec Dieu. Le péché devait être couvert. Et dans l'Ancien Testament, on voit entre autres dans le livre de la loi toutes sortes de sacrifices qui devaient être faits. Il y en a un entre autres qu'on parlait, on l'appelait le sacrifice d'expiation. Et comment ça se passait? C'est qu'on amenait un taureau, un bélier. Et puis, ce taureau-là était égorgé. Et puis, on mettait les mains, le sacrificateur mettait ses mains sur le bélier. Puis, il faisait porter au bélier le péché du peuple. C'est comme s'il y avait un transfert. Dieu voyait un transfert des péchés sur le bélier qui était sacrifié. Puis, qui était, en quelque sorte, recevait la punition pour le péché. Et à cause de ce sacrifice-là, Dieu agréait son peuple dans sa présence et pouvait vivre en relation avec Dieu. Mais ce sacrifice-là devait être répété jour après jour. Il y avait des sacrifices qui étaient répétés, mais celui-là, spécialement celui-là, année après année. Année après année, ce sacrifice-là devait être offert par les sacrificateurs du peuple pour que Dieu soit favorable à son peuple et puisse vivre cette relation entre Dieu et Israël. De la même façon que le sacrifice de l'Ancien Testament reflétait, le sacrifice de l'Ancien Testament permettait, et voilà, on est revenu, permettait d'entrer en relation avec Dieu. Ça, c'était une ancienne alliance avec Israël. Dieu a promis, a annoncé la paix à travers une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui allait venir à travers un serviteur, le serviteur de l'Éternel qui va être livré en sacrifice pour le payer le prix qui nous donne la paix. Vous connaissez bien Ésaïe 53. Plusieurs connaissent bien ce passage-là. Je vais prendre le temps de le lire dans Ésaïe 53, les versets 4 à 5. On voit que Dieu a suscité quelqu'un pour devenir une victime qui allait prendre sur lui nos péchés et nous donner sa justice. Dans le verset 4 de Ésaïe 53, on peut lire « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce serviteur. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Pour pouvoir recevoir la paix avec Dieu, il fallait que justice soit faite. Il fallait qu'une victime prenne ma place, notre place. Il prenne à notre place la condamnation que méritaient nos péchés. Et le serviteur de l'Éternel allait être suscité. Dieu allait susciter un serviteur parfait qui allait être une victime parfaite pour nos péchés. Et par le châtiment qu'il allait subir à cause de nos péchés, il allait nous accorder la paix, parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le véritable prix à payer, c'est la vie d'un serviteur fidèle à Dieu qui va venir subir une fois pour toutes la condamnation que méritait le péché. Une fois pour toutes, pour plus avoir à répéter les sacrifices de l'Ancien Testament, ça prenait une victime parfaite. Et ce serviteur va venir. Dieu annonce que ce serviteur va venir. Dieu annonce que la justice va être accomplie par Dieu lui-même à travers son serviteur, le sauveur qui va venir pour payer pour la dette des péchés. Et par la justice qui allait être accomplie par la mort du serviteur de Dieu, par son sacrifice, Dieu annonce la paix à tous ceux qui ont un cœur humble devant lui. J'ai parlé de Dieu comme un Dieu saint, élevé, très haut, d'une séparation qu'il y a entre Dieu et les hommes. Mais en même temps, le passage nous parle de paix. Il nous parle que Dieu veut venir. Il veut qu'un chemin soit établi, parce que Dieu a vu son peuple avec un cœur contrit et brisé, humilié. Et Dieu désire rétablir cette relation-là avec les hommes. Et Dieu a tout accompli dans cette victime parfaite pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Dieu désire rétablir la paix. Et Dieu veut venir guérir le cœur des hommes en apportant la paix à leur cœur, en rétablissant cette relation avec lui. Nous étions créés pour vivre en relation avec Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, a pourvu à ce qu'il fallait pour qu'on puisse vivre cette relation-là. La paix qui allait être établie à travers le serviteur de Dieu, c'était pas une paix qui était temporaire, mais une paix éternelle, une alliance éternelle. Dans Ésaïe 54, au verset 10, Dieu dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Dieu est élevé, Dieu est saint, mais Dieu a compassion. Et Dieu vient vers nous. Ézéchiel 37, versets 26 et 27, il dit « Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Dieu désire apporter la paix, une justice qui doit être accomplie. Et c'est Dieu lui-même qui va se charger de cette justice-là pour qu'on puisse entrer en relation avec lui. Et Dieu annonce la paix maintenant à tous les hommes. Il annonce la paix à ceux qui ont un cœur humble devant lui. Pour pouvoir recevoir cette paix-là avec Dieu, on a besoin d'avoir ce cœur humble et contrit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cœur qui reconnaît qu'on est les créatures, puis Dieu est le créateur. C'est un cœur qui reconnaît qu'on aurait dû être saint comme Dieu est saint et obéir à tous les commandements qu'il nous a donnés. C'est un cœur qui réalise son imperfection, qui désire se détourner, qui reconnaît sa rébellion envers Dieu et qui désire se détourner pour se saisir ce que Dieu offre comme paix et revenir de ses mauvaises voies. Le cœur contrit, humble, c'est un cœur qui vient devant Dieu, qui dit « Je suis perdu, j'ai besoin de toi, je veux être en relation avec toi. » Et Dieu annonce la paix en disant « Je suis avec l'homme contrit et humilié, verset 15, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Dieu désire ranimer les esprits humiliés. C'est lui qui va venir pour nous redonner vie à notre cœur rebelle, pour venir nous transformer, pour qu'on puisse vivre cette relation-là avec Dieu. Ce qu'on a besoin, c'est que Dieu vienne raviver nos cœurs pour qu'on puisse vivre en paix avec lui. Mais comme chrétiens, nous, on a goûté à cette paix-là. Lorsqu'on a placé notre foi en Jésus-Christ, qu'on a trouvé notre joie auprès de Dieu, on a trouvé le pardon de nos péchés, on a été... On a reconnu que Christ a payé la dette de nos péchés. On a saisi ça par la foi et on a reçu cette paix-là avec Dieu. Dieu nous a réconciliés. Il dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis ça, on a saisi ça un jour. Sauf que ça nous arrive parfois comme chrétiens de vivre un peu comme le peuple de Dieu, de continuer de vivre selon les penchants de notre cœur rebelle, de suivre un peu cette ancienne nature qui est toujours attachée à nous, puis qui nous empêche de vivre pleinement la paix avec Dieu. Dieu nous a, si c'est notre situation, puis lorsqu'on vit cette situation-là, Dieu a compassion de nous, Dieu veut venir vers nous, Dieu veut rétablir la paix lorsqu'on s'éloigne de lui. Et on a besoin parfois de réaliser qu'on retombe, puis on retombe dans nos mauvaises voies, puis on suit les penchants de nos cœurs, nos idoles. Mais Dieu veut offrir la paix. Es-tu en paix avec Dieu présentement? Dans le sens que, oui, tu peux reconnaître, que recevoir le pardon de Dieu pleinement. Tu es en paix avec lui, ton éternité est assurée, mais dans ta conduite, vis-tu pleinement cette paix-là? D'une relation intime avec Dieu, en faisant sa volonté, en vivant pour sa gloire. Lorsqu'on considère que Dieu a tout accompli pour que ce gouffre-là soit rapproché, qu'il soit éliminé pour qu'on puisse vivre en relation avec lui, on devrait consacrer nos cœurs à vivre pour poursuivre cette paix-là avec Dieu, pour la vivre pleinement et vivre cette relation intime-là qui a coûté le prix du serviteur de l'Éternel. Et cette paix-là, on peut en jouir dès maintenant. On peut la saisir. Et peut-être que pour toi, tu ne l'as pas saisi encore, là, cette paix-là que Dieu offre. Et tu entends qu'il y a un serviteur qui va venir accomplir, qui va être la justice, qui va accomplir la justice en mourant, en offrant sa vie. À Noël, on annonce la paix. Parce qu'on annonce la venue de ce sauveur-là qui est venu pour payer la dette de nos péchés. Et puis ce serviteur-là, c'est Jésus-Christ qui est venu donner sa vie pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Par la foi en lui, on obtient la paix avec Dieu. Et Dieu nous promet aussi la paix et le repos du cœur. Excusez, le repos du cœur lorsqu'on s'approche de lui. Mais il y a une conséquence pour ceux qui n'ont pas ce cœur humble et contrit. Le passage termine en disant qu'il n'y aura pas de paix pour ceux, pour les méchants, pour ceux qui demeurent rebelles à Dieu. Ceux qui ne viennent pas à Dieu avec un cœur humble demeurent rebelles à Dieu. Dieu a établi son plan pour nous réconcilier, mais ça prend de notre côté ce désir d'être réconcilié avec Dieu et d'être en relation avec Dieu. Et cette rébellion-là, malheureusement, si qu'on persiste dedans, ça ne mène pas à la paix avec Dieu. Pas de paix pour le méchant, dit mon Dieu. Pas de paix pour celui qui n'a pas ce cœur humble et contrit. C'est une séparation d'avec Dieu pour toujours, une séparation éternelle. Mais Dieu annonce la paix et maintenant tu peux la saisir, cette paix-là. Demeure pas dans cet état de rébellion contre Dieu, dans un désir de vivre ta vie par toi-même, de satisfaire ta vie par toi-même. Mais trouve ta paix en Dieu, trouve ta joie en Dieu en venant à lui, en recevant le pardon pour tes péchés. Viens à lui pour avoir la paix éternelle qu'il t'offre aujourd'hui. Dieu annonce la paix à tous ceux qui ont un cœur humble devant lui. À Noël, on célèbre l'accomplissement de cette promesse de Dieu d'apporter la paix à ceux qui ont un cœur humble et brisé par leur péché. Comme il l'avait promis dans la personne de Jésus-Christ, Dieu est venu pour annoncer à son peuple la paix. On va célébrer dans quelques jours la naissance du Sauveur, du Prince de la paix, qui avait été promis par le prophète Ésaïe. J'inviterai les musiciens à s'avancer. Puis pendant qu'ils s'avancent, on va lire ce passage. Encore une fois, le prophète Ésaïe avait annoncé que le Sauveur viendrait. Dans Ésaïe 9, au verset 5, nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » À Noël, on célèbre le prix qui a été payé pour qu'on puisse avoir la paix avec Dieu. On célèbre que le Prince de paix est venu pour rétablir cette relation-là. Ensemble, on a besoin de se rappeler de ce que ça l'a coûté et de se réjouir maintenant de ce privilège-là qu'on a d'être en paix avec Dieu et célébrer chaque jour et ensemble en Église ce que Dieu a accompli pour nous. Maintenant, par la foi dans ce Sauveur qui est venu, on sait et on a saisi que Dieu s'est approché de nous et que nous sommes réellement réconciliés avec lui pour l'éternité. Le prix a été payé. Ne vivons plus avec nos cœurs rebelles à Dieu, mais goûtons sa grâce, sa paix. Gardons nos cœurs humbles devant lui pour vivre cette paix. Et à l'approche de Noël, rappelons-nous que Dieu a accompli ses promesses. Annonçons autour de nous cette paix que Dieu seul peut donner. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, parce que tu es ce Dieu de paix. Tu es ce Dieu qui désire se réconcilier avec sa création et qui, longtemps d'avance, 700 ans avant la venue du Sauveur, tu annonçais cette paix à ton peuple et même cette paix qui allait s'étendre dans toutes les nations. Seigneur Dieu, merci parce que cette parole est accomplie. Et on veut se rappeler, Seigneur, que dans ce temps de Noël, un enfant nous est né, un fils nous est donné, que ce fils est le prince de la paix qui nous réconcilie avec toi. Aide-nous, Seigneur, à vivre pleinement. Vive pleinement cette paix avec toi de jour en jour. En marchant avec toi, accompagné à ta suite, Seigneur, accompagné par toi, par ton esprit, et qu'on puisse vivre pleinement cette paix, sans aucun obstacle, et jouir du bonheur qu'on trouve en toi. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, et que ton nom soit béni et célébré dans nos vies. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.